Voilà, c'est la leçon sur le psaume du 13 février. Ça, ou du 12 ? Du 12, du 12 février. Je reprends quelques minutes sur le psaume 1, qui a fait l'objet de la leçon de la fois passée. Je vous lis d'abord la traduction de Souraki, pour vous rendre compte du genre littéraire, parfois un peu spécial. Donc c'est le psaume « Heureux l'homme qui ne va pas au conseil des méchants », etc. « En marche, l'homme qui ne va pas au conseil des criminels ne s'arrête pas sur la route des fauteurs, n'habite pas l'habitat des railleurs, mais a son désir dans la Torah du Seigneur et murmure sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre transplanté sur des canaux d'eau qui donne son fruit en son temps. Son feuillage ne fane pas, tout ce qu'il fait triomphe. Pas ainsi des criminels. Ils sont comme la glume que cingle un souffle. Aussi, les criminels ne se lèveront pas au jugement, ni les fauteurs dans la communauté des justes. Oui, le Seigneur pénètre la route des justes, la route des criminels perd. » Donc vous voyez, c'est un peu spécial, il tient compte de certaines nuances, par exemple pour le premier mot, « en marche l'homme », c'est vrai que « Asheret », « bonheur de », mais qui suggère un mouvement, il est en route vers le bonheur. Et puis alors, il n'hésite pas à utiliser des mots rares, hein. « Pas ainsi les criminels, ils sont comme la glume ». La glume, c'est un équivalent de la balle, qui est déjà un mot un peu rare, pour dire l'enveloppe du grain, hein. Qu'emporte le vent, dit le texte hébraïque, que cingle un souffle. C'est vrai qu'on parle d'un vent cinglant, par exemple. Hein. Mais donc, il joue sur les nuances du français, il joue sur l'hébreu et parfois sur le grec. Ce qui veut dire que parfois on s'étonne, on s'extasie, mais on ne comprend pas pourquoi il va chercher ces traductions-là. Donc ce n'est pas une version utilisée en catéchèse. Je crois que c'est intéressant pour quelqu'un qui a travaillé un texte d'aller voir comment on lui traduit. Certains moment donné, c'est suggestif, mais c'est pas une Bible de travail ou de prière, je dirais. Voilà. Alors je vous chante simplement une version du psaume 1, qui est proposé pour le chant de ce psaume lorsqu'il intervient le dimanche. C'est le texte du psautier version œcuménique de la Bible. Reconnaître au passage le texte intégral du psaume, et alors c'est une mise en musique avec un refrain. Vous savez que à chaque dimanche est proposé un refrain qui s'inspire d'un verset mais qui n'est pas nécessairement littéralement un verset. Par exemple ici le refrain dit « Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, hein ». Il transpose l'amour de la loi en termes de foi. Mais alors tout le reste des strophes, c'est intégralement le texte du psaume. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs. Ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur, et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps. Et jamais son feuillage ne meurt, tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme que remarque, vous remarquez qu'il a, que celle qui a mis en musique, c'est Gratia Previdi, hein, du groupe GPS, hein, qui propose cette mélodie. Elle a respecté le texte aussi dans la division en strophes, en s'incline, puis s'incline, puis pour la finale, c'est plus bref. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Et on a, je dirais, sauté les versets pour le chanter le dimanche, on a sauté les versets qui concernent le jugement. Hein, ils ne tiendront pas au jugement, les méchants. Donc c'est le texte intégral, mais enfin, il y a quand même un petit passage qui est sauté. Ça, c'est une chose. Alors, vous avez vu que le refrain peut se prêter à un rythme régulier. Je l'ai fait simplement pour faire des arpèges, parce qu'il est écrit pour pouvoir être chanté par l'assemblée. Vous avez senti que c'est assez facilement, on répète une fois, et ça se reprend assez facilement, le refrain. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. On sent le rythme et ça se chante. Tandis que pour les versets, j'accompagne avec des accords filés, coulés. Je n'essaie pas de faire du rythme. Les accords suivent la ligne mélodique. Et la ligne mélodique qui s'adapte évidemment au nombre de syllabes qui peut varier. Puisqu'on essaie de respecter le texte, on n'a pas cherché à faire des vers réguliers ou quoi que ce soit. Et donc il s'agit d'avoir une manière de proposition, de mélodie pour les versets qui puisse être chantable. Voilà. Et alors les accords sont en bas, mais sur une note longue, j'ai toute une série de mots, par exemple. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, et les notes sont indiquées simplement quand je change de mélodie. Mais le reste, je dois adapter le rythme du phrasé français à la mélodie proposée ou réciproquement. Ouais, c'est un exemple, mais puisque les psaumes sont par excellence des textes bibliques qui ont été écrits pour être chantés, et que précisément dans la liturgie du dimanche, on est invité au minimum à chanter le refrain. Voilà. Ça, c'était pour faire écho au psaume 1. Nous allons passer, si vous voulez, au psaume 2. Je vous invite à voir encore la page 11 de la fois passée, qui nous servira à un moment donné quand on comparera un peu le psaume 1 et le psaume 2. Et surtout, je vais suivre les pages 15 et 16 que vous aviez reçues la fois passée. Je vous invite à les avoir sous les yeux. De même que le texte du psaume 2 que vous avez pris aujourd'hui. Donc voyez les pages 15 et 16 données la fois passée. Le texte du psaume 2. Je le lis d'abord, et vous dans la version simple et liturgique. Puisque sur la feuille, j'avais des choses déjà plus littérales, mais un peu moins élégantes du point de vue français. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure du peuple? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux, contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Je proclame le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, roi, comprenez. Reprenez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. qu'il s'irrite et vous êtes perdu, soudain sa colère éclatera. Heureux qui trouve en lui son refuge. Ça se termine par une béatitude. Le dernier verset du psaume 2 se termine par une béatitude, tout comme le premier verset du psaume 1 commençait par une béatitude. Vous voyez globalement de quoi il s'agit. Des gens se rebellent contre la loi, le Seigneur est celui auquel il a donné l'onction. Et lui manifeste sa réprobation et sa colère. Et puis au verset 7, il y a un « je » qui prend la parole et qui a l'air d'être précisément le Messie, l'élu, le fils du roi, qui rappelle le décret que le Seigneur lui a donné. Il m'a dit, mon fils et toi, moi aujourd'hui, je t'ai engendré, etc. On verra la portée de cela. Donc, là, ce ne sont plus les nations qu'on a entendues en direct au verset 3, déchirons leurs liens, rejetons de nous leurs cordes, ni le Seigneur lui-même, qu'on a entendu en style direct au verset 6, moi j'ai sacré mon roi sur Sion, la montagne, mon sanctuaire, mais c'est le roi Messie qui prend la parole, là, au verset 7, 8. Et puis enfin, au verset 10 à 12, vous voyez qu'il y a une apostrophe, est-ce que c'est le psalmiste qui parle, est-ce que c'est le roi lui-même qui parle, le Seigneur, en tout cas une invective au roi de la terre pour qu'il se convertisse sous risque d'être perdu, comme dans le psaume 1, le chemin des méchants se perdait. Voilà, esquisser le fil. Maintenant, on va reprendre un peu plus en détail. Je suis la page 15, simplement. Je lis, j'explique un peu, je commente un peu. D'abord, quelques repères historiques pour comprendre, parce que c'est un univers culturel qui n'est plus, ou politique, ou social, ou religieux, qui n'est plus le nôtre. Est-ce que le psaume a été composé à l'occasion d'une cérémonie d'intronisation d'un nouveau roi à Jérusalem ? Peut-être, si on regarde le verset 6, et moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, c'est Jérusalem, ma montagne sainte, dit le Seigneur. Donc, il n'est pas à exclure que le psaume ait été écrit à l'occasion d'une circonstance comme cela. Le vocabulaire situerait le psaume peut-être au 8e siècle. C'est l'époque d'Isaïe. En tout cas, le prophète Isaïe comme tel qui a écrit les 39 premiers chapitres du livre, tandis que la suite, c'est peut-être des disciples d'Isaïe plus tard. Mais l'époque d'Isaïe, du grand prophète Isaïe comme tel, c'est au 8e siècle, et il a affaire au roi Akaz et le successeur de Akaz, son fils, ça va être Ézéchias. Et c'est dans ce cadre-là qu'intervient la prophétie de l'Emmanuel, c'est-à-dire où Dieu parle au roi Akaz à propos de un descendant, un fils qu'il va avoir. Voici que la jeune fille est enceinte, concevra un fils, etc. Donc c'est le contexte, là, au 8e siècle, de la prophétie d'Emmanuel, qui justement promet un roi stable, un descendant messianique, et dans un contexte où il y a des ennemis qui risquent de mettre à mal cette dynastie davidique qui menace Akaz et Ézéchias. Donc c'est ces rois, peut-être ces rois de la terre, ces murmures des peuples qui se rebellent contre le roi. D'abord le roi d'Israël et puis le Messie promis. Et dans ce contexte, la théologie d'Isaïe concerne la pérennité de la descendance royale davidique et l'inviolabilité de Jérusalem, donc qui est qualifiée ici de Sion, ma sainte sur ma sainte montagne. Donc ça, c'est le contexte, si vous voulez, juif possible. L'intronisation d'un nouveau roi à Jérusalem, et peut-être spécialement le descendant, soit le roi Achas, soit son fils Ézéchias. Alors on peut se référer aussi à ce qu'on connaît des traditions mésopotamiennes. Parce que le psaume a peut-être été écrit à l'époque, mais peut-être sa rédaction finale est postérieure. Et en Mésopotamie, où quand même le peuple juif a vécu en exil, il y avait aussi des traditions concernant l'intronisation d'un nouveau roi ou une fête annuelle en l'honneur du souverain. Et c'est aussi le cas, éventuellement, en Égypte. Donc dans les grandes cultures qui ont environné Israël et au contact desquelles le peuple a été, il y avait aussi, à l'occasion de l'accession au trône d'un nouveau souverain, que ce soit en Mésopotamie ou en Égypte, eh bien, des déclarations solennelles. Et peut-être comme une démarche, je dirais, liturgique, entre guillemets, à portée théologique. Le roi terrestre représente le roi céleste. Voyez qu'il est dit ici au verset 7 quand même, « Il m'a dit, toi tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Et souvent, il n'était pas rare pour un souverain mésopotamien ou égyptien que l'accès au trône descendant était relu comme une espèce d'adoption filiale de celui qui devenait roi. Et donc, il est parfois qualifié justement fils de Dieu, déjà dans ses cultures, mais en un sens, du moins par adoption. Et peut-être que c'est le sens premier du psaume aussi. Mais il est sûr que lorsqu'on va le relire, on y viendra chrétiennement, on va sentir qu'il s'agit d'une filiation qui n'est pas simplement d'adoption, mais vraiment de nature, si je puis dire. Alors parmi les rites d'intronisation dans ces cultures, en Mésopotamie ou en Égypte, eh bien, ici on peut repérer qui a une onction d'huile. Moi, j'ai Nasarti Malki, j'ai donné l'onction, c'est le verbe de l'onction, mon roi, sur Sion, ma sainte montagne, une onction d'huile, et le titre même de Messie, qui est au verset 2, contre le Seigneur, vous voyez la fin du verset 2, contre le Seigneur, et contre son Messie. Donc il y a cette perspective d'une onction, et Messie voulant dire celui qui reçoit l'onction aussi. Et qui était transposé en grec en Christos. C'est celui qui a reçu l'onction. La chrésima en italien, ça veut dire la. Et on retrouve encore la racine dans le synchrème. Il y a un verbe grec, krio, qui a donné Christos, chrésima, etc., qui veut dire oindre. Et c'est le pendant du terme hébraïque messie. Donc, il y a allusion à l'onction d'huile qui était pratiquée, si vous allez relire ou vous avez entendu récemment dans la liturgie les sacres de Saül par Samuel et puis de David, eh bien, intervient une onction d'huile dans le rituel de consécration royale. Puis, il y a comme autre élément dans ces traditions, la proclamation du protocole royal, c'est-à-dire le décret divin qui intronise le souverain. Quelqu'un lit le décret par lequel il est dit que, voilà, le personnage ici présent est intronisé par Dieu. Et ici, c'est ce qui est dit, « Je proclamerai le décret du Seigneur » au verset 7, « Il m'a dit », etc. En 2 Samuel 7, 13 à 14, si je vous lis ce petit passage. C'est précisément dans la prophétie que Nathan fait au roi Akas, dans le, et qu'on retrouve aussi au livre de Samuel. Yahvé t'annonce qu'il te fera une maison. Et quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de tes entrailles. J'affermirai sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom. J'affermirai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Ça, c'est la promesse que Dieu fait à David concernant son successeur Salomon. Et par la bouche du prophète Nathan. Isaïe parle au roi Akas, Ézéchias. Nathan parle à David concernant son fils Salomon. Mais on voit que ce thème de la filiation du roi promis intervient. Alors, il y a l'hommage des vassaux à Dieu et au nouveau roi qu'on vient peut-être embrasser. Vous voyez que le verset 12 est compliqué dans l'hébreu. Il y a des discussions. Hein. Vous voyez qu'il est traduit sur la feuille que vous avez, embrasser ce qui est pur, sous peine qu'il ne soit en colère, et le père Radermakers, dans l'encadré en bas, a traduit lui, embrasser le fils. C'est-à-dire dans l'hébreu, c'est nasku bar ou. Si on dit bar, ça veut dire. Ce qui est pur, ça s'écrit, voilà les deux consonnes, ça se lit de droite à gauche. Et si on lit ben, ça s'écrit différemment. Et il suffit que on ait lu un petit peu, on ait confondu le avec ben. Donc pur, fils. Donc il y a pu avoir, et puis il y a d'autres. Quand on a des passages difficiles comme ça, les explications de Dorme sont toujours intéressantes. Il faut connaître un petit peu l'hébreu pour voir ce qu'il explique. Et donc ne vous étonnez pas de voir des variantes dans la traduction du verset 12. Ok ? Mais toujours est-il qu'il y a sans doute embrassé, que ce soit embrasser le fils, que ce soit embrasser ses pieds, selon nos traductions, embrasser ce qui est pur, on voit qu'il y a peut-être l'allusion à une forme d'hommage rendu à Dieu ou au fils consacré. Et enfin, parfois, il y a des rites d'exécration, c'est-à-dire que, on dit d'avance, que ceux qui se rebelleront contre le souverain choisi par Yahvé, eh bien, tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier, est-il dit au verset 9. C'est quand même rude comme avertissement. Alors, à la mort d'un souverain, avant l'intronisation d'un nouveau, il y a parfois des risques d'instabilité et de révolte des vassaux. Hein? Quand on est dans une période de transition. Par exemple, on a peut-être un tel contexte sous-jacent à une expression d'Isaïe. En son chapitre 14, je vous le lis. Verset 28-29. L'année de la mort du roi Akas. L'année de la mort du roi Akas. Donc, il vient décéder. Qui sera le successeur? Est-ce qu'on va accepter Ézéchias, son fils, comme successeur? Ou bien, est-ce qu'il va y avoir des disputes de succession? L'année de la mort du roi Akas, cet oracle fut prononcé. Ne te réjouis pas, Philistie tout entière. Donc l'adversaire d'Achas, les Philistins, il y a un avertissement qui leur sont donnés, ne te réjouis pas, Philistie tout entier, de ce qui est brisé, le bâton qui te frappait. Achas qui tenait tête aux Philistins. Car de la source du serpent sortira une vipère et son fruit sera un dragon volant. Alors il y a peut-être allusion au successeur d'Achas qui va mener la virute aussi aux Philistins. Voilà un exemple, on a pu identifier qu'à la mort du roi Achas, il y a d'autres exemples possibles, c'est une période d'instabilité où il s'agit d'exhorter le peuple à reconnaître le bon souverain que Dieu donne au peuple. Il y a aussi des relectures qui élargissent les vassaux aux rois de la terre, aux peuples, aux nations. Si vous voyez dans le psaume, ça varie. C'est la rébellion d'abord des rois de la terre, et puis on dit qu'il y a peut-être des peuples entiers qui se soulèveraient contre le Messie de Dieu. En Jérémie 2, 20, j'ai fait une faute de frappe, c'est pas au chapitre 3, voyez-vous. Jérémie chapitre 2, verset 20. Il y a des reproches qui sont faits et qui permettent de rejoindre un peu ce que disent ici les rois. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ces entraves. Ils perçoivent ces rois, les vassaux, leur suggestion au roi comme des liens et des entraînes, et leur rébellion consiste à vouloir briser ces liens. Et on trouve des expressions semblables en Jérémie. Avec les aléas, les fautes et la disparition de la monarchie, s'accentue l'espérance messianique, tournée vers un roi meilleur, à l'image d'un David idéalisé. Vous vous souvenez que sous David, à partir de l'an 1000, et puis Salomon, il y a eu un royaume unique. Mais après, quand même, il y a eu quelques troubles dans la succession et des divisions. À la mort de Salomon, le royaume s'est divisé en royaume du sud et royaume du nord, 930. Et puis le royaume du nord a péri avec la chute de Samarie. Donc la lignée royale du nord a péri à ce moment-là. Nous sommes en 720 avant le Christ. Et puis le sud va encore tenir 150 ans, mais à un moment donné, avec le départ en exil, c'est la chute aussi de la royauté davidique à ce moment-là. Et puis il y aura plus tard, après le retour d'exil, une reprise d'une forme de royauté dans une autre lignée. En tout cas, la grande lignée davidique, à ce moment-là, des rois davidiques, a terminé d'abord au nord et puis au sud. Pour faire bref. Hein. Bien sûr, la lignée davidique, les successeurs ne sont pas tout à fait éteints, sinon on ne serait pas arrivé au Christ, là où il est dit Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse. Mais toujours est-il que les aléas de la royauté terrestre ont accentué l'espérance d'un roi, parce que des rois avaient bien fait, mais d'autres avaient été infidèles au Seigneur, accentué l'espérance d'un roi messianique, qui serait un peu à l'image d'un David idéalisé. À l'époque intertestamentaire, c'est-à-dire entre l'Ancien et le Nouveau Testament, enfin pas entre, il n'y a pas eu de mais à la jonction, si vous voulez, les deux, les pharisiens s'opposent à la lignée royale asmonéenne, puis à Hérode, qui fait court à ce moment-là, dans l'attente précisément d'un vrai roi, et à la limite d'un vrai roi qui serait le Messie qui viendrait de la part du Seigneur. Une attente eschatologique, à la limite. Souvenez-vous, dans le récit de Matthieu, on voit bien qu'il y a ce conflit sous-jacent. Qui est le roi, vraiment, hein? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et puis, le texte nous fait comprendre qu'en vérité, le roi des Juifs, mais qu'il y a l'autre roi, qui est le roi Hérode, qui s'y oppose de toutes ses forces. Donc, par rapport à justement ces royautés opposées à la royauté de Dieu, eh bien, Matthieu nous fait comprendre que le Messie attendu, le vrai roi, à la différence d'Hérode, est présent. Les personnages, ça c'est pour donner quelques éléments, un peu de contexte, d'éclairage plutôt historique. Alors les personnages, il y a le roi Messie, à Jérusalem, les opposants qui vont s'élargir au roi et au juge de la terre, au verset 10, et puis le Seigneur, hein, que j'ai mis sous la graphie qu'on ne prononce pas en hébreu, Yahvé, hein, le tétragramme, les quatre lettres, qui soutient le Seigneur indéfectiblement, son roi Messie. Alors, à travers le psaume, on peut repérer des éléments de continuité, qui sont dans le champ du lexique, des thèmes, des images. Il y a une série de mots-clés pour les personnages. Le Seigneur, et puis celui qui a attendu, Messie, roi, fils, et cela en regard de ceux qui risquent de le méconnaître ou de s'y opposer, les nations, les rois, les juges de la terre. Donc on voit qu'il y a deux groupes de personnages. Dieu, son roi, son Messie, et puis les opposants. Du côté de Dieu, il y a le langage de la puissance divine. Hein? Le Seigneur s'en moque, sa colère va sévir, sa fureur à la fin, etc. Tu pourras les battre avec un sceptre de fer, il les brisera, etc. Et puis, du côté des ennemis, il est dit d'eux qu'ils s'agitent, qu'ils se coalisent, qu'ils se concertent contre, qu'ils rejettent. Alors, pour que cesse cette opposition, cette méconnaissance, ou ce refus, eh bien, il faut une conversion. Donc, il y a un appel à la conversion, à un moment donné. Le vocabulaire de la conversion. Comprenez, apprenez, avec crainte et tremblement. Et alors, au passage, il y a des images qui sont utilisées. C'est-à-dire la soumission qui est due au roi. Il la ressent comme des liens, des cordes, des entraves. L'extension du règne royal est exprimée en termes d'extension sur un héritage, un domaine. Et puis la puissance du roi promis contre ceux qui se rebellent contre lui est exprimée dans le fait qu'il a un sceptre de fer qui va les briser comme des vases de potier. Donc le vocabulaire psalmique utilise aussi le registre des images. Le genre, le mode locutoire du psaume. Ce n'est pas plus une prière comme telle que le psaume 1. On a vu que le psaume 1 peut porter à la prière, mais n'est pas formulé comme une prière. On ne demande pas directement quelque chose au Seigneur. Mais on sent bien qu'il invite à choisir le chemin de son amour plutôt que le chemin des méchants. Ça oui. Mais le psaume 2 non plus n'est pas comme tel un psaume directement une prière. C'est un psaume de messianisme royal et prononcé à partir de Sion. Il présente des accents prophétiques. Là où il y a l'interpellation, maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre, etc. Les prophètes, les grands prophètes n'ont pas peur d'interpeller avec ça. Et oraculaire, c'est-à-dire que on rappelle le décret du Seigneur, verset 6. C'est un mini-récit de drame messianique et de jugement eschatologique, et le psalmiste prend position. Alors on entend parler le psalmiste et tous les personnages en direct. Vous avez entendu les adversaires qui s'expriment en disant « Déchirons leurs liens, rejetons-nous leurs cordes », c'est le verset 3. Le Seigneur qui rétorque « Moi j'ai sacré mon roi sur Sion ». L'élu successeur Messie qui lui-même prend la parole pour dire, rappeler le décret du Seigneur, au verset 7. Et enfin, au verset 10, et maintenant, roi, comprenez, c'est peut-être le psalmiste lui-même qui prend la parole et qui invite à choisir le temps du Messie plutôt que de se rebeller. Donc, on entend parler les personnages. Et il parle sur des modes locutoires variés. D'abord, une interrogation. Pourquoi les nations clament-elles, les peuples murmurent-ils en vain contre le Seigneur et son Messie? Au verset 1, 2. C'est des questions. Des questions, évidemment, à force d'interpellation. Hein? Cortatif, au verset 3. Rompons leurs liens, rejetons loin de nous leurs entraves. Un cooptatif, c'est on s'encourage à la première personne du pluriel. Partons. Ici, on voit que c'est le cas. Rompons, rejetons loin de nous. Ils s'exhortent entre eux. C'est ça qu'on appelle un cooptatif. S'exhorter ensemble à faire quelque chose. Et là, ils s'exhortent, je dirais, dans un esprit de rébellion. Si on prend les versets 6 et 7, ils sont sur le registre déclaratif. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion. Il m'a dit, mon fils, c'est toi. Donc une déclaration, ou bien une assertion. Je te donnerai les nations en héritage. Ou au verset 9, Tu les briseras d'un sceptre de fer. Il y a aussi des impératifs. Demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage. Ou bien un impératif qui vise alors les rois de la terre. Servez le Seigneur dans la crainte exultée. On voit que les modalités verbales sont variées. Et sans le jeu des personnes mises en relation. Alors il y a un élément de traduction intéressant, c'est que vous sentez bien que le verset 7 est décisif, là où il est dit « Je proclamerai le décret du Seigneur, il m'a dit, c'est toi mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » On va voir que ce verset a connu évidemment une grande importance dans le Nouveau Testament. Hein? Il faut savoir que dans la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque du psaume, c'est le roi Messie qui parle pour dire, donc dans notre texte c'est Dieu qui parle, je proclamerai le décret du Seigneur, et pour dire mon fils c'est toi, tandis que dans la Septante c'est le roi Messie qui parle pour dire et moi j'ai été établi roi par lui, sur Sion, sa sainte montagne. Le mouvement du psaume, vous prenez la traduction qui est dans l'encadré en bas, en quatre cases, c'est assez facile à saisir. Des versets 1 à 3, on a la révolte insensée des nations et des peuples. Est-ce que c'est des nations environnantes contre le roi d'Israël? Est-ce que c'est en Juda même des vassaux qui se rebellent contre la lignée davidique, mais toujours est-il, on voit qu'il est fait allusion à leur rébellion, leur coalition, leur concertation, contre qui, verset 2, contre le Seigneur et contre son roi, son Messie. Et on les entend parler. C'est un premier tableau. Voilà la révolte, la rébellion, le refus des nations, des peuples contre le Seigneur et son Messie. Deuxième tableau, les versets 4 à 6. La réaction, c'est une vaine rébellion. Celui qui siège aux cieux se rit d'eux, le Seigneur se moque d'eux, et non seulement il s'en rit, mais il les prend à partie en retour. Alors il leur parle dans sa colère et dans sa fureur, il les effraie pour maintenir « Moi j'ai sacré mon roi sur Sion, la montagne de mon sanctuaire. » Ça c'est la réponse de Dieu à cette rébellion. Troisième tableau, donc la case des versets 7, 8, 9. Le roi rappelle, en style direct encore, les termes du décret d'investiture. Et là, sont importants comme indice les pronoms en je, en tu, en moi, en toi. Je raconte, donc le je qui prend la parole, c'est sans doute l'élu de Dieu, je raconte le décret du Seigneur, il m'a dit, mon fils, toi, moi aujourd'hui, je t'ai fait naître, dans une traduction littérale, je t'ai engendré. Sa venue à la royauté, et puis demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, ton domaine et les confins de la terre. Donc ces nations mêmes qui se rebellent, eh bien, sont l'objet de la promesse de Dieu à son élu. Demande-moi et j'étendrai ta royauté. Et une royauté vigoureuse, tu les battras avec une verge de fer, comme vase de potier, tu les briseras. Puis le dernier tableau, le psalmiste, le roi, invite à servir précisément et le Seigneur et son nez. Et maintenant, roi, comprenez, apprenez juste de la terre. Les rois de la terre, dont il fait allusion au verset 2, se retrouvent ici à la fin, interpellés. Servez le Seigneur avec crainte, tournez avec tremblement, et puis rendez hommage, sans doute on peut traduire avec Jean-Renaud Macaire, au Fils, en tout cas, on voit qu'il est demandé le service de Dieu, mais aussi le service de son Fils. Sinon, il se fâchera et vous perdrez le chemin. Ça nous fait penser quand même à la fin du psaume 1. Yahvé connaît le chemin des justes, mais celui des méchants se perd. Donc ici, c'est un avertissement. Sinon, vous perdrez le chemin du salut. Quand soudain, ça enflammera sa colère. Et par contre, en face de ceux ainsi avertis, eh bien, il y a ceux qui acceptent de se convertir, de faire confiance, allégresse, progrès. C'est comme ça que Jean-Renaud Macaire traduit la béatitude, heureux de tous les réfugiés en lui. Vous vous souvenez que Sourati traduisait heureux par en route. C'est ici que Jean-Renaud Macaire a souhaité reprendre cette nuance de progrès aussi, à côté de la nuance de joie et de bonheur. Alors si on compare au psaume 1, on peut penser que le juste à distance des méchants dans le psaume 1, on a dans le psaume 2 le camp des justes, le Seigneur et son Messie, face au camp des insurgés, des rebelles, des méchants. Dans le psaume 1, on a la conduite et la prospérité du fidèle de Yahvé. Vous vous souvenez, sous la forme, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, jamais il donne son fruit en son temps. Et on voit que le roi sacré par Yahvé est intronisé et il lui est promis un règne prospère. Demande-moi, je te donnerai mes nations pour héritage. Les méchants, selon le psaume 1, ont souligné leur vacuité. Ils sont comme la balle emportée par le vent, ils ne sont rien. Ici, on dit que les nations qui persisteront à se rebeller vont être possédées et dominées par le roi Messie. Avant le départage, jugement des méchants et des justes, dans le psaume 1, l'invitation à choisir le bon chemin. Et ici, on voit qu'il y a un avertissement, une invitation à choisir le Seigneur et son Fils. Voilà une comparaison globale. Il ne faut pas forcer la comparaison, mais on voit bien que il y a dans le psaume 1, en tout cas, à choisir entre deux voies, le chemin de la fidélité à la loi du Seigneur ou bien le chemin des méchants. C'est une distinction forte. Tandis qu'ici, dans le psaume 2, il y a aussi une opposition, mais cette fois-ci sous la forme de l'évocation d'un combat déclaré. Dans le psaume 1, comme je vous ai dit la fois passée, il n'était pas dit que les méchants attaquaient le juste. On faisait comprendre que ces deux camps, il faut choisir entre les deux. Ici, on voit que est mis en scène l'opposition des méchants ou des rebelles par rapport au Messie du Seigneur. D'autres indices de rapprochement de ces deux psaumes, 1 et 2. En acte 13, 33, ça, là, c'est Paul qui est en train de parler aux Juifs dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, là en Asie mineure. Et il, pour citer le psaume 2, le verset 7, pour faire allusion à la résurrection du Christ, à la faveur, moi aujourd'hui je t'ai engendré, il dit, ça se comprend de la résurrection du Messie, dans l'application qu'à ce moment-là, Paul en fait. Mais alors il dit, ainsi est-il écrit au psaume 1er. Or, c'est dans le psaume 2. C'est un indice de ce que, dans un premier temps, sans doute, avant d'être distingués, ça ne faisait qu'un seul psaume, qui commençait par heureux, au début du psaume 1, et qui se termine par heureux, à la fin du psaume 2. Et donc, c'est un indice que peut-être ça n'a fait un temps qu'un psaume, avant qu'on distingue deux psaumes différents. Parce que la tonalité, au-delà des similitudes, est quand même différente. Ils ont en commun de ce que, à la différence des psaumes suivants, il n'y a aucun titre, aucune indication de chant, etc. On commence d'emblée le psaume. Et tous les psaumes qui vont suivre après, il y aura une introduction chaque fois. L'encadrement par heureux, j'ai fait allusion. Et puis, dans chacun des deux psaumes, il y a un encadrement. D'une part, les heureux qui ne tentent pas au conseil des méchants, et puis les méchants qui sont stigmatisés à la fin, dans le psaume 1. Et ici, dans notre psaume, c'est les rois de la terre et les justes de la terre qui sont présents au début, au verset 2, et à la fin. Et puis, il y a, dans l'un et l'autre psaume, quand on regarde le texte hébraïque de près, des termes qui sont communs. On a vu, le chemin des impies se perd par rapport, dans le psaume 2, vous perdrez le chemin, ça, et puis d'autres termes. Alors, quelle est la portée du rapport entre le psaume 1 et le psaume 2? Je vous lis un petit commentaire d'André Wénin, qui écrit un beau livre sur les psaumes. Le parallélisme relatif. Il ne faut pas forcer le parallélisme entre les psaumes, mais on voit qu'il y a quand même des éléments qui prêtent à mise en rapport. Le parallélisme relatif entre les deux psaumes tend à désigner le roi Messie comme le type du juste, psaume 1, contre lequel se dresse vainement les ennemis, les fauteurs du mal. Le Messie, avec tout l'honneur que lui confère l'élection du Seigneur, est une figure du juste et de son sang. Il y a une similitude entre l'alliance qui lie le juste à son Dieu, le juste qui se plaît dans la loi du Seigneur, et celle qui lie le Dieu d'Israël à son roi. Un roi est une personnalité symbolique représentative de son peuple tout entier. Le Messie est lui-même une figure représentative d'Israël devant les nations et devant son Dieu. Le psaume 1 différenciait l'homme de la loi et les méchants qui l'évitent. Le psaume 2, lui, met en scène carrément, comme je vous disais, une lutte ouverte. Le Seigneur se situant clairement du côté de son Messie contre les ennemis. L'appel « Et maintenant, roi, comprenez, ouvre, il entre dans l'aujourd'hui. » Ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il a intronisé, il a sacré son roi sur sa sainte montagne. Selon le psaume 1, c'est confronté à ces tensions internes que l'homme doit choisir la voie du bonheur. Le psaume 2, lui, et là je cite le père Adormacher, se pose la question de la personne devant la collectivité. Le roi est ici le type du fidèle, mais aussi le médiateur, le représentant de la puissance divine. Et David se profile derrière cette figure royale. Le psaume 2 nous situe au milieu de l'humanité, avec ses groupes de pression, ses conflits politiques. On voit bien que la méconnaissance ou la rébellion contre le Messie de Dieu, cette incompréhension est encore à l'œuvre dans notre monde. Dernière remarque et suggestive d'André Wénin. À l'entrée du psautier, on lit d'abord une méditation de genre sapientiel sur le bonheur de l'homme qui murmure la loi. Le psaume 1. Suit une annonce de caractère plutôt prophétique, c'est le psaume 2, concernant l'histoire du Messie alliée au Seigneur. Alors j'ai souligné, c'est moi qui ai mis en italique, qui ai souligné les quatre termes importants, parce qu'il en conclut, de la sorte c'est tout l'univers de la Bible, de la loi au prophète, de la sagesse à l'histoire, qui se tient au port du livre des louanges, c'est la manière de désigner le livre des psaumes. Parce que la division de les grandes parties de la Bible, c'est quand même la loi, la Torah, les cinq premiers livres, les livres prophétiques, les livres d'histoire, hein, j'ai eu Samuel Roy, par exemple, et les autres écrits, parmi lesquels les écrits de sagesse sont importants. Je dis, voilà, avec ces deux psaumes, on a ces quatre pistes d'entrée peu dans la vie. Alors, dans le Nouveau Testament, c'est un psaume qui a joué un grand rôle. On le voit au moment de l'annonce de la résurrection de Christ, le psaume 2 est souvent relié au psaume 110. Le psaume 110, c'est « Oracle du Seigneur, mon Seigneur, siège à ma droite, et je mettrai tes ennemis sous tes pieds. » Donc c'est l'oracle, c'est le psaume qui est prié le soir du dimanche, le psaume de la résurrection. L'oracle du Seigneur à mon Seigneur, il m'a dit « Siège à ma droite. » Donc c'est le Seigneur qui dit cela à son Messie. Et donc on a relié ce psaume 110 au psaume 2, qui est un autre psaume messianique royal. Alors, l'écho aussi, c'est dans tous les évangiles, la thématique quand même de la royauté et du royaume. Jésus, à l'entrée à Jérusalem, est quand même acclamé comme roi, fils de David. Il y a des paraboles où Jésus se présente, il est quand même le fils du roi, les invités aux noces, c'est les noces du fils du roi. Il y a un accomplissement royal et messianique, et plénitude de singularité filiale en Jésus. Ce roi des Juifs, surprenant, oppose à la stratégie du pouvoir chez les nations l'attitude de service. Donc on sent bien qu'il y a les rois des nations avec leur conception de la royauté, et puis la conception, la manière de vivre la royauté qui sera celle du Messie, et spécialement de Jésus, lorsqu'il dira « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et en acte 1-6, même après la résurrection, les apôtres demandent encore à Jésus « Est-ce maintenant que tu as rétabli la royauté en Israël ?» Ils espèrent encore le rétablissement d'une royauté terrestre et politique. Et Jésus va continuer à faire comprendre que le royaume est venu en sa personne, mais il est d'un autre ordre. Je prends le passage de Actes 4, 25-26, quand il cite le psaume, le début du psaume, attribué à notre père David, ton serviteur. Les apôtres persécutés citent, puis comment, « Oui, vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations païennes et les peuples d'Israël. » Donc cette opposition à Jésus, qui a mené à sa passion et à sa mort, les apôtres la commentent en citant le psaume 2, ici, son début. En disant, ce qui s'est passé, c'est que les nations et même les chefs d'Israël se sont rebellés contre celui qui en vérité est le roi Messie attendu et qui est ressuscité. Donc, dans la proclamation de la résurrection et de l'annonce de Jésus comme vrai roi Messie, eh bien, il s'appuie sur ce psaume. Le décret divin du psaume 7, mon fils c'est toi, moi aujourd'hui je t'ai engendré, connaît divers points d'application christologique, c'est-à-dire dans la méditation, la théologie, la spiritualité de l'Église, on a relu ces versets comme dit à quel moment. Certains disent, c'est déjà la parole divine à son fils de toute éternité, l'engendrement éternel. C'est-à-dire, on dit dans le credo, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. De toute éternité, le fils est engendré par son Père. Et donc, tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré, ça serait aujourd'hui de l'éternité de Dieu, selon cette ligne de, si vous voulez, de compréhension du texte. D'autres le comprennent au moment de l'incarnation. Tu es mon fils, bon, aujourd'hui je t'ai engendré, hein, je t'ai fait venir dans l'histoire humaine. Vous savez que ce verset est utilisé aussi, apparaît en arrière-fond de les paroles dites à la théophanie et à la transfiguration. Celui-ci est mon fils. Et puis il y a le bien-aimé de Genèse, et puis il y a l'élu d'Isaïe, mais celui-ci est mon fils, hein, c'est la déclaration, tu es mon fils, dit en troisième personne, qui vient de la voix céleste au baptême, hein, et à la transfiguration. Donc certains entendent, à la suite des évangélistes, qui l'ont compris comme ça, ce verset comme dit au fils, aussi à ce moment-là, hein, à ces moments décisifs de son baptême, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, c'est comme si... Il était conforté dans son identité filiale pour partir dans sa mission. Et de même à la transfiguration. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Donc, c'est un autre point d'application du double théophanie du baptême et la transfiguration, ou encore la résurrection. Au moment où la filiation de Jésus comme fils de Dieu éclate dans la splendeur de la résurrection, hein, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré au sens de t'ai ramené à la vie, la vie de la résurrection. Ce verset est interprété la résurrection du Christ qui manifeste sa filiation divine et nous demande d'y participer. Il y a d'autres passages d'Hébreux qui vont en ce sens. Alors vous direz, mais de ces divers points d'application, lequel faut-il retenir? Mais tous ont leur pertinence, leur intérêt. C'est la richesse du psaume que de s'être exprimé dans un langage qui affirme la filiation de l'élu de Dieu et qui scande, je dirais, son parcours, si on peut dire. Alors, la prière, je vois que l'heure est écoulée, donc vous pourrez lire ce que je dis de l'utilisation des versets 8-9. Hein. La prière en écho au psaume, je vous ai dit, le psautier de la Bible de Jérusalem, écrit par Gélino, propose une oraison chaque fois à la fin. Et on a vu pour le psaume 1 comment cette oraison était construite sur la structure classique des oraisons. On nomme Seigneur, on appelle toi qui appelles, et puis on adresse la demande et on termine en Amen. C'est le mouvement d'oraison ici. Seigneur Dieu. Il est quand même question du Seigneur Dieu et sous la forme solennel et avait dans le psaume. Seigneur Dieu, on rappelle ce qu'il a fait. Tu as engendré ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. On comprend le Fils, pas simplement comme l'héritier royal, mais le Fils par excellence. Ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu l'as consacré roi en Sion. Et on reprend Sion comme une figure, Jérusalem, déjà la Jérusalem céleste, comme figure de l'Église, ton Église sainte. Et tu lui as donné la victoire sur tous ses ennemis. Ce qui convient, évidemment, comme application au Christ, spécialement si on prie ce psaume, le veau de la résurrection. Tu lui as donné la victoire sur tous tes ennemis. Donc, on rappelle ce que Dieu a fait, mais on le rappelle, vous le sentez bien, en une lecture chrétienne du psaume, christologisante. Et puis on demande, accorde-nous de le connaître et de le servir. C'est ce qui est quand même demandé au roi. Apprenez, roi de la terre, et prosternez-vous, servez-le. Hein? Le connaître et le servir. Pour que nous échappions à la colère qui vient. Il a quand même fait allusion à sa fureur, à sa colère. Et que nous ayons part à son règne. Ça, c'est la perspective quand même qui est déclinée par la béatitude finale. Pour les siècles des siècles. Amen. Alors, voyez comment se reflète. Comme je dis, souvent ces prières tiennent compte de ce qu'on a appelé les quatre sens de l'Écriture. Le sens littéral, parce qu'il y a des expressions, tu as engendré un fils unique, roi en Sion, victoire, c'est des termes même du psaume. Donc ça incorpore des éléments de la lettre du psaume. Et puis les trois sens spirituels qui vont, ce qu'on appelle le sens allégorique, dégage d'un texte ce qu'il pointe comme vérité sur le Christ ou son Église, qu'est-ce qu'on peut comprendre comme s'appliquant, comme lumière concernant le Christ et son Église, c'est ce qui est, j'ai mis le sens allégorique, et puis le sens anthropologique ou le sens moral, qu'est-ce qu'il faut faire, pas simplement qu'est-ce qu'il faut comprendre, que ce Messie, c'est le Christ, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on le demande, accorde-nous de le connaître et de le servir. C'est ce qu'on appelle le sens anthropologique. Et puis, le dernier sens spirituel est ce qu'on appelle le sens anagogique, ça veut dire un mot qui signifie l'élévation, et qui pointe vers l'aboutissement ultime de nos histoires personnelles et de l'histoire du monde. Eh bien, c'est en filigrane au jour du jugement que nous ayons champion à la collecte des gains, que nous ayons part à son règne. Et pour les siècles des siècles. Donc ça, c'est le sens plutôt d'ouverture. Voilà, la fois prochaine, c'est pour ça que je vous ai déjà donné le texte, nous verrons le très beau psaume 8. Donc, le psaume, par rapport au psaume 1, le psaume 2, je suis bien conscient, est un peu plus complexe. Hein, j'ai dû donner un peu plus d'explications, d'éléments culturels, historiques, etc., des allusions à la royauté davidique, que ce soit au moment d'Akaz ou Ézéchias, que ce soit le passage de David à Salomon, mais on sent bien que le psaume 1 disait « Choisissez le chemin de la loi du Seigneur pour être heureux et n'allez pas vous perdre dans le chemin des méchants. » Et ce psaume-ci nous montre comment, entre les deux camps, il y a un combat dans l'histoire du monde. Ça a été un combat pour la reconnaissance du roi de Dieu en Israël ou par rapport aux nations qui environnaient Israël. Et que voilà, nous participons à ce combat, et c'est pour ça que nous demandons, accorde-nous de le connaître comme notre vrai roi et de le servir dans l'horizon proposé. Alors le psaume 8, la fois prochaine, c'est le beau psaume que vous connaissez. « Ô Seigneur notre Dieu, qui est grand pour nous partout l'univers, qu'est-ce que l'homme, pour que tu penses à lui, et pourtant, il est tout petit, mais pourtant il a fait un peu moindre qu'un Dieu. » Ça c'est le psaume qu'on prie un des samedis à l'office de midi. Ô Seigneur notre Dieu, qui est grand ton nom partout l'univers. C'est le début, une autre interprétation chantée de ce psaume, c'est le début et la fin du psaume qui sont encadrés par ce verset. Hein?